Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Lematin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Salut Catherine, je sais qu'on va parler dans quelques instants avec Mélanie Tétrault au sujet Valérie Tétrault au sujet de Bianca Andreescu, oui. Mais je me suis posé la question hier en l'écoutant après.
Oui.
Bon, là, je vais pas être méchant, là. Mais est-ce qu'elle est plus québécoise que quelqu'un qu'on connaît? Est-ce qu'elle est plus québécoise que Eugénie Bouchard?
Je sais. Mais pourquoi? Ton point, c'est
mais
quoi?
Je l'ai entendu rendre hommage à tous les gens de Tennis Canada.
Oui.
Qui l'appuient depuis le tout début de son physiothérapeute, c'est un autre Québécois qui était monté, ouais. Alors que l'autre, la jeune femme avait dû revenir à Montréal, de Sylvain Bruneau, qui était aussi des premières aventures de Eugénie Bouchard. La façon dont il l'a remis sur les rails, il a été acclamé par tout le monde hier après le match, Sylvain Bruneau. Et si on n'était pas assez fins, nous autres. Mais en tout cas, on est assez fins pour Bianca Andreescu, et j'espère que elle va continuer à progresser et qu'elle va se concentrer sur le tennis. Hier, écoute, cette jeune fille-là n'avait pas gagné plus de 350 000 $ en bourse en carrière.
Ouais.
Elle gagne 1,3 million hier. Ça change une vie.
Ah, ça, c'est clair. Absolument.
Mais restons concentrés, on va en parler avec...
Oui, ça... mais ton point est bon. Mais je pense pas qu'on fait face au même genre de personnalité qu'Eugénie, là, de ce que je peux
non,
voir.
Non, c'est très, très, très différent. Elle vient pas du même milieu. Mais elle est passée par la même école.
Ah oui, je suis d'accord.
Tennis Canada,
absolument.
Ça, ses origines tennistiques sont les mêmes.
Oh, t'as bien raison. Hey Michel.
On va voir ce que ça va donner.
Commentaire sur le Canadien, OK? Jacques, que je salue, un auditeur qui m'écrit ce matin. Il dit « Allô Catherine, bonne semaine à toute l'équipe. Un petit mot pour dire à Michel Villeneuve que la patience de Jeff Molson et des partisans achève. Il n'y a plus de glorieux dans cette équipe. »
Quoi? La patience de Jeff Molson?
Moi, je pense que...
Ça fait cinq ans qu'il est patient.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est bien patient, moi, Jeff.
Bon, je pense qu'il est bien patient. Oh, il vit pas dans le même monde que nous autres.
Je le sais pas. Mais Michel, moi, je les regarde, là, et je veux pas être la plate. Tu sais que c'est mon équipe, mais je ne pense pas qu'ils vont faire les séries.
Les chances actuellement sont très minces, là, 18,8%, là. C'est pas grand-chose. Moi, c'est pas les statistiques, ça. C'est la façon dont le Canadien se déploie. Pour aller dans les séries éliminatoires, il faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs. Et actuellement, le seul meilleur du Canadien qui est meilleur, c'est Carey Price.
Ouais.
Les autres ne sont pas là.
Mais c'est parce que Michel, il peut pas tout faire. Il peut pas marquer des buts.
C'est ça, exactement. T'sais, Price, écoute, là, il fait tout pour permettre à son équipe de demeurer dans le match. Écoute, Canadien pourrait marquer un but, puis il pourrait peut-être gagner de la façon dont Price travaille devant le filet. Mais ce n'est pas suffisant. On n'est pas capable de hausser son niveau de jeu lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Puis je reviens à mon élément de départ, c'est qu'on n'était pas physiquement prêt à sonner la charge. Puis je vois Jonathan Drouin, le gars qui devrait faire la différence dans ces moments-là, qui pourrait traîner l'équipe. Il est aussi talentueux que Carey Price.
Ouais.
Sauf qu'entre les deux oreilles, ça se passe pas pareil.
Non.
Mais Price a pris du temps avant d'atteindre une certaine maturité. Là, il va falloir que Drouin l'apprenne, qui tire des enseignements de ses récents matchs. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si lui pouvait en marquer un de temps en temps, ça changerait tout le portrait. Mais pour l'instant, il le fait pas. Puis le Canadien, ça ne va pas du tout dans la bonne direction.
Ah, je suis bien d'accord avec toi. Bon.
Mais c'est pas surprenant. On avait une petite équipe. Puis, regarde les grosses machines, les diesels qui commencent à se mettre en route. Elles ont des joueurs talentueux. Ils ont aussi des petits joueurs talentueux, mais entourés par des gars qui sont beaucoup plus gros physiquement puis qui sont capables d'assurer le train. Tu sais, dans une équipe de cyclistes, par exemple, on voit Hugo Hull présentement qui a du succès avec l'équipe Astana.
Ouais.
Il y a des joueurs qui sont là, il y a des équipiers de soutien qui sont là pour faire rouler le train, puis quand c'est le temps, le petit vite se détache. Je prends cette analogie-là, puis je la sers au hockey.
Mm-hmm.
On a des gros gars, tu sais, des gars comme Arnia, qui, il n'y en a pas beaucoup qui sont dotés physiquement de carrures comme celle d'Arnia, mais il fait pas le boulot. Tu sais, si t'es capable tu es toujours en train d'aller frapper les défenseurs adverses, tu patines, tu es dans leurs jambes, tu vas au filet. À un moment donné, le petit va en profiter. Mais nous autres, c'est nos petits qui faisaient ce travail-là, puis ils sont au bout du rouleau.
Ouais,
tu sais, je me demande comment que Brendan Gallagher fait encore à ce stade-ci de la saison pour déployer des efforts comme il l'a fait. Il n'a pas autant de succès, mais tabarouette, pauvre petit gars, il est à moitié mort.
Oui,
C'est la triste vérité.
Oui, je le
sais.
C'est la réalité. Mais on le voit.
C'est la réalité.
Il manque de gaz, c'est clairement.
Tu sais, parce que je peux pas dire samedi soir que les gars ont pas fait d'efforts. Honnêtement, là, je peux pas dire que les joueurs du Canadien sont traînés les pieds contre Chicago samedi. Sauf qu'il y a des affaires qui font la différence, tu sais.
Ils sont
pas capables de soutenir le train, le rythme, ce rythme-là imposé en fin de saison par des équipes aussi talentueuses et plus lourdes.
Oui, puis en avantage numérique, Michel, ben ça continue d'être pathétique.
Mais si on était capable, tu sais, je me dis, si Drouin, il y a eu beaucoup de points à 55, Jonathan Drouin, c'est assez surprenant,
ouais. Mais
si on était capable d'en marquer un de temps en temps d'avantage numérique, me semble que ça donnerait confiance.
Ben oui, ben oui.
Tu tires de l'arrière, c'est un moment clé dans le match, tu as besoin d'un but, tu as un joueur de plus, on n'est même pas capable d'atteindre le filet.
Oui, je suis bien d'accord avec toi.
Comment, regarde, c'est la même chose depuis un mois. Ça va être comme ça dans un mois.
T'as écouté le golf un peu, j'imagine?
Ben, qu'est-ce que tu penses
des faits? C'est sûr. Toi qui es un...
Ton Rory.
Ah oui?
Mais écoute, là, j'entendais... j'avais écouté en matinée des commentaires sur Golf Channel. L'animateur principal disait que McIlroy, depuis quelques années, s'approchait toujours de gagner un tournoi, mais il était incapable de le faire. Est-ce qu'il avait la force mentale pour passer au travers? Écoute, depuis le début de la saison, McIlroy n'avait pas terminé plus loin qu'au sixième rang dans tous les tournois qu'il avait participé, auxquels il avait participé.
Mm-hmm.
Mais je trouvais que le dimanche, c'était assez ordinaire. Mais il expliquait, lui, qu'il travaillait sur certaines affaires pour développer la façon de gagner. Et hier, ça s'est produit. Parce qu'au début de la ronde, ça a été... Il a commis deux bogeys, c'était ordinaire. Il y avait plusieurs gars qui se pointaient aux avant-postes, qui pouvaient gagner. Mais lorsque ça a été le temps, après un bogey... au 15e, il a enchaîné sur le par 5, il a frappé le par 5 en deux, il a réussi un birdie, il a réussi un autre birdie au 17e, et c'était dans la poche. Il n'avait qu'à rouler, avoir deux coups roulés au 18e pour l'emporter devant le vétéran Jim Furyk, qui à 48 ans a réussi un exploit remarquable. Moi, je regarde ces gars-là qui se battent contre des jeunes, mais des jeunes. Faut dire que McIlroy a maintenant 29 ans. Tu sais, c'est plus un jeune. On a l'impression que c'est encore des bébés, mais ce sont des bébés qui grandissent sous nos yeux.
Oui.
Il est rendu à 29 ans, il a un corps de culturiste, il frappe la balle à 3000. Quand c'était le temps hier, j'écoutais les commentateurs. « Hey, il prend une chance aux 18 ans, au 18e trou, il prend son driver, son bois numéro 1. » Ben oui, mais c'est son meilleur bâton dans son sac. Puis il est confiant. Frappe-le, puis il l'a frappé. Il a carry 288 verges dans le centre de l'allée.
Ouais.
Il dit bonsoir, le tournoi est fini. Mais le golf, il est ça extraordinaire. C'est un drôle de jeu. Tu sais, Fury qui arrive à 48 ans. Il est capable de se présenter. Il y a deux, Westwood et John Ram, qui est au plus fort de la course. C'est fort tous les deux, alors qu'ils ont besoin d'un coup pour se rapprocher de Rory McIlroy. J'ai bien hâte de le voir au Master. Je pense que ça peut être son année. Là, il est premier au classement de la Coupe FedEx. Il y a une coche d'avance actuellement sur tout le monde. Puis s'il peut arrêter de rater des petits coups roulés de 3-4 pieds, là, il a pas le droit de manquer ça.
Ah
son beau gars hier, là, il était à 3 pieds du trou. Il touche même pas le trou. Nous autres, ça peut nous arriver. Mais des gars comme McIlroy, tu sais, il faut qu'il corrige ça. S'il corrige ce petit aspect de son jeu-là, il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir y toucher.
Non. Hey, tout juste qu'on enchaîne...
Peux-tu parler de Johnny?
Bien, oui, vas-y, avant qu'on enchaîne, qu'on termine avec le tennis.
Hey, Johnny Manziel.
Oui.
Le voilà déjà avec le San Antonio dans la AAFL. Il va jouer sous les ordres de Mike Singletary. Il retourne sur les lieux du crime parce que c'est au Texas, avec Texas A&M, l'université américaine, qu'il a connu son plus beau moment, qu'il a gagné le trophée Heisman. Est-ce que ce retour-là chez lui, dans ses terres, va lui permettre de remettre de l'ordre? Je pense pas dans son jeu, mais dans sa tête. C'est ce qu'on verra, mais on peut pas savoir pourquoi il est capable de jouer actuellement aux États-Unis, puis il n'était pas capable de jouer au Canada.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a sacré dehors?
Mais c'est parce qu'on le sait pas. C'est ça, Michel. C'est ça,
ben, c'est
problème.
Ça, là. Moi, quand je l'ai vu, là, il a été accepté tout de suite, puis il va être sur le terrain en fin de semaine.
Ouais.
Ou presque. ils ont besoin de vendre des tickets, puis ils ont besoin de, ils ont besoin d'auditoire à la télévision. Tu me diras, là, je comprends. Mm. Mais pourquoi il était pas éligible à jouer dans la CFL pour une raison qui demeure obscure, puis il est capable de jouer dans la nouvelle ligue de football professionnel des États-Unis? Il y a quelqu'un qui est dans son entourage qui va s'ouvrir la trappe.
Ouais.
On va savoir c'est quoi, mais pour l'instant, ça demeure très substitueux.
Hey, Michel, reste là. On va introduire, on va bien sûr parler avec Valérie Tétrault, directrice des communications chez Tennis Canada, qui a eu le bonheur en plus d'analyser ce match-là sur les ondes de TVA Sport hier. La jeune Bianca Andreescu, championne à 18 ans. Bonjour Valérie.
Bon matin, vous deux.
Valérie,
bonjour, Valérie.
Michel, je vais commencer, puis tu pourras enchaîner avec tes questions également.
Ouais, vas-y.
Valérie, écoute, moi, évidemment, je la vois, je la regarde aller depuis un certain temps, puis je fais comme, waouh, quel beau potentiel, elle frappe fort. Est-ce que je me trompe, une joueuse comme elle l'est actuellement, on n'en a pas vu des tonnes, des Canadiennes comme elle?
Non, c'est vrai qu'on n'en a pas vu des tonnes parce qu'on l'a vu monter depuis déjà quelques années. Déjà lorsque Bianca avait à peine 14 ans, là, on avait identifié son potentiel. On voyait un futur chez elle, évidemment sur le circuit de la WTA et parmi l'élite mondiale. Mais on le sait, au tennis, il peut se passer toutes sortes de choses. Et elle a continué sa progression. Ça n'a pas toujours été facile chez les juniors. Elle a été un peu ralentie par certaines blessures. Et à la fin de l'année dernière, je dirais, il s'est comme passé un petit déclic. Ça allait pas très bien pendant le cours de sa saison 2018. Et à la toute fin, elle a remporté des challengers. Ça lui a donné confiance. Mais on était loin quand même de s'attendre à cette espèce de progression fulgurante là au début de l'année 2019. Et là, on a l'impression vraiment qu'il n'y a plus de limite, hein, qu'elle pourrait même, qui sait, remporter un tournoi du Grand Chelem, même déjà cette année.
Oui. Michel, avais-tu quelque chose à rajouter?
Oui, Valérie, je regardais les jeunes filles qui nous ont fait honneur dans le passé. Je pense à Carling Bassett, je pense à Patricia E, à Eugénie Bouchard aussi. Dans le cas de Bianca, elle semble être beaucoup plus athlétique. C'est un bulldog sur le terrain.
Oui.
Elle a une puissance physique que les filles qui l'ont précédée, qui lui ont pavé la voie, n'avaient pas. Est-ce que je me trompe?
Non, tu fais bien de le mentionner, Michel, parce que c'est vrai que c'est l'un de ses atouts, hein, sa force physique. Et à 18 ans, c'est assez rare quand même qu'on voit ça. Elle est déjà bien développée, elle est capable de durer. Elle est très rapide, c'est l'une probablement des plus rapides dans ses déplacements sur le terrain. On la voit aller chercher des balles qui sont loin. Elle réussit malgré tout à rester en équilibre. Et ça, je pense que justement, ça peut être une des choses qui lui permettent d'atteindre les plus hauts sommets, mais aussi d'avoir une longue carrière sur le circuit de la WTA, parce que le jeu a beaucoup évolué et le tennis est devenu un sport qui est très, très physique.
Parce qu'elle va pouvoir enchaîner avec sa force physique, là. Tu sais, lorsque tu as dépensé de l'énergie, parce qu'Indian Wells, les jeunes ne se trompent pas, avec, si je compare au golf, c'était aussi hier avec le TPC à Sawgrass, le tournoi Indian Wells, c'est le cinquième tournoi majeur en principe à Indian Wells. Puis tu vas gagner ça, c'est la victoire la plus importante de n'importe quel joueur ou joueuse canadienne confondue. C'est tout un exploit qu'elle a signé hier à Indian Wells.
Ben c'est ça qu'il faut qu'on réalise, hein, parce que oui, il y a les tournois du Grand Chelem, mais c'est vrai que le tournoi d'Indian Wells est surnommé comme le cinquième Grand Chelem. Et si on a vu Miloš Raonic atteindre la finale à Wimbledon, on a vu Eugénie Bouchard aussi atteindre la finale à Wimbledon, mais remporter un titre là et être vraiment sur la plus haute marche du podium, c'est la plus grosse victoire pour le tennis canadien. Alors c'est extrêmement prometteur et c'est de la manière qu'elle le fait aussi. Je veux dire, elle le fait contre Kerber, qui a déjà gagné plusieurs titres du Grand Chelem, qui jouait pas du tout un mauvais match. Là. C'est pas que Kerber le lui a donné. Vraiment Bianca Andreescu qui est allée chercher cette victoire.
Question pour toi, Valérie. Évidemment, on regardait la fin du match. Et évidemment, plus le match avançait, plus c'était pénible. Physiquement, on le voyait. Puis elle avait des crampes. Puis on voyait qu'elle était blessée au bras aussi. Est-ce que c'est inquiétant pour les semaines à venir? Est-ce qu'elle peut se permettre présentement dire, OK, je prends une pause, non, mais qu'il y a des tournois, est-ce qu'elle va pouvoir choisir les tournois qu'elle va faire maintenant?
Ben, c'est sûr que là, son calendrier de tournoi risque de changer un tout petit peu. Hein. Il va falloir que son équipe s'assoie et puis le plan qu'on avait probablement élaboré au début de la saison va changer parce que elle a progressé au classement. Elle se retrouve 24e aujourd'hui. Pour vous illustrer un peu la progression, là, elle était parmi les qualifications aux internationaux d'Australie. Au prochain Grand Chelem qui sera Roland-Garros, elle va être parmi les têtes de série. Alors, c'est complètement autre chose. Et là, il va falloir faire attention, oui, parce que il y a le nombre de tournois qu'on veut disputer dans une année, mais il faut prendre en considération le nombre de matchs qu'on joue par tournoi. Et en ce moment, c'est elle qui en a joué le plus dans tout le circuit. Et elle a quand même, je vous ai parlé de blessures dans sa carrière chez les juniors, elle a cette fragilité quand même. Aussi, on pousse un peu trop la machine, il y a des choses qui peuvent lâcher. Alors oui, selon moi, il y aura des ajustements à apporter.
Tu me permettras, Catherine, une petite question, mais c'est une observation pour Valérie. En tant qu'employé de Tennis Canada, lorsque tu l'as entendu hier s'adresser au micro, moi, je trouve que le succès d'un jeune athlète, c'est de savoir surtout pas où tu t'en vas, mais d'où tu viens. Et hier, là, ça devait vous faire plaisir en tabarnouche. De la réceptionniste jusqu'au président de Tennis Canada, me semble que vous deviez avoir une certaine fierté de dire « Hey, elle sait d'où elle vient. » Puis c'est important pour nous autres.
Il y a pas de plus belle récompense. Je pense que on travaille très fort. Évidemment, chez Tennis Canada, on a à cœur le développement de notre sport. Mais la plus belle récompense, c'était de voir Bianca Andreescu jouer ce match-là contre Kerber, l'emporter. Et là, en plus, effectivement, avoir ces belles paroles pour sa fédération et voir sa reconnaissance. Parce que c'est une fille qui a monté à travers les programmes de Tennis Canada. Elle en fait partie depuis qu'elle a 10 ans. Mais d'avoir cette lucidité, alors que elle n'est pas une habituée là, des grands discours sur les grandes scènes. Et pourtant, elle a quand même pensé justement à remercier la fédération. Je sais qu'il y avait plusieurs de mes collègues là, du bureau de Montréal qui étaient rassemblés au Stade IGA justement pour regarder ce match. Et vous pouvez vous en douter, il s'en est suivi une longue filée de courriels aussi par la suite. Et les gens étaient évidemment extrêmement heureux.
Ben, on va continuer de suivre sa progression. Elle est belle à voir jouer, ça c'est clair. Merci Valérie.
Merci à vous.
Merci, bye bye, Valérie Tétrault, directrice des communications chez Tennis Canada, que vous entendez également du côté de TVA Sport. Michel, on s'en reparle demain?
On a encore l'œil, hein?
On... Pompée! Salut, Michel.
Là, je t'en content de l'entendre parce que je sais ce que ça représente. Et
ben avec
je sais
raison.
Surtout ce que, je sais surtout ce qu'on a souffert aussi des mésaventures d'Eugénie.
Oui.
Ça a des répercussions. Puis là, il y a quelque chose qui nous vient, qui nous replace. Puis pour les parents qui nous écoutent, là, le tennis, c'est un sacré beau sport.
Ah, c'est clair. C'est absolument.
Une sacré belle école.
Ouais.
Puis il n'y a pas de commotion cérébrale au tennis. Puis tu sais, il y a des dangers de blessures. Là.
Oh, oui, mais
c'est tellement beau. C'est un sport individuel, puis c'est un sport d'équipe en même temps. Si vous choisissez un sport pour vos enfants, tabarouette, que c'est une belle discipline.
Je suis bien d'accord avec toi. Salut Michel, à demain.
Salut Kat.
OK, bye-bye. 7h54, Michel Villeneuve. Tous les jours, 7h40. Et vous venez d'entendre également Valérie Tétrault, qui fait un excellent travail à TVA Sport, faut le mentionner, et chez Tennis Canada également.